J'appelle depuis Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André Dimbouji, Mai, au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de choisir Radio Okapi pour vous informer et nous vous proposons à ce niveau le nouveau numéro de parole aux auditeurs. Ça fait 3 semaines depuis que les députés nationaux, la société civile et autres personnalités politiques alertent concernant une importante pollution dans les provinces du Kasaï et du Kwilu. Le week-end dernier, la vice-première ministre chargée de l'environnement et du développement durable, accompagnée des experts, ont séjourné dans cette partie du pays pour s'enquérir de la situation. Certains observateurs estiment que cette énième pollution de nos eaux, après celle du Katanga avec les miniers et celle du fleuve Congo avec les brassicoles à Kinshasa, relance les débats sur la responsabilité de l'État dans la protection de nos rivières, lacs et fleuves contre ces genres de désastres environnementaux. Alors comment commentez-vous cette actualité? Vous pouvez participer à cette émission en composant les 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour votre intervention en direct. Vous avez également la possibilité d'interagir avec l'ensemble des internautes sur www.radiocapi.net ou encore sur notre page Facebook. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats. Vous êtes plus de 4500 à avoir été touchés par ces sujets et 300 parmi vous l'ont partagé. Il faut encore merci de choisir Radio Okapi. Et toute l'équipe est là pour vous tenir compagnie. Jocelyne Mukendi à la réalisation de cette émission mise en onde par Hippolyte Kapanga. Et cette émission est coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, merci une fois encore de votre fidélité à Radio Capi. Nous avons le plaisir de recevoir ou d'accueillir dans ces studios Monsieur Lungu Malouchi, lui, et qui est avec nous. Monsieur Malouchi, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Nous rappelons que vous êtes directeur chef des services des ressources en eau au ministère de l'Environnement et du Développement Durable, MED en sigle. Merci de nous avoir honoré de votre présence. La situation, elle est très catastrophique, voire même alarmante comme on les présente. C'est vrai?
Disons... Il y a plus de l'alarmisme que de la réalité. Nous avons tous vécu cette situation et le ministère de l'Environnement, par son autorité numéro un, la vice-première ministre, ministre en charge de l'Environnement, a pris les choses en main. Présentement, elle est sur la route. Elle a quitté le Kasaï, elle est rentrée à Kinshasa avec un rapport qui fera à qui des droits. Voilà tout ce que je peux vous dire. Donc, la situation est sous contrôle au ministère de l'Environnement et tous les autres ministères sectoriels impliqués dans la gestion et l'utilisation des ressources en eau en République démocratique du Congo.
La situation est sous contrôle, mais qu'est-ce qu'est-il réellement passé?
Ah, voilà. Nous avons suivi dans les médias la première réaction. Nous avons vu des images satellitaires qui ont montré la rivière Chikapa et Kasaï colorée en rougeâtre, qui a changé la couleur, polluée évidemment. Et nous avons aussitôt obtenu, le ministère a obtenu les rapports de l'administration sur place. Il y a eu le coordonnateur en charge de l'environnement, le ministre provincial en charge de l'environnement, donc le gouvernement provincial a pu remonter rapidement un rapport et certains échantillons qui ont été analysés à Kinshasa.
Au niveau du laboratoire vétérinaire.
Exactement.
Et quel a été le résultat?
Les résultats, d'emblée, on s'est rendu compte qu'il y avait un taux excessif
du nickel
et du fer.
Venant de l'Angola.
Venant de l'Angola, de la mine de Kaboba, je pense, si je ne me trompe pas, dans la province de Lunda Nord. Et c'est là que la rivière Chikapa prend la source. En fait, la rivière Chikapa, c'est une rivière transfrontalière. Elle a sa source en Angola et son exutoire sur le territoire congolais. Et l'exutoire se trouve être l'embouchure de cette rivière avec l'affluent le plus important du fleuve Congo, qui est la rivière Kasaï, précisément dans la ville de Chikapa.
Est-ce qu'en ce moment, le principe du pollueur-payeur doit-il s'appliquer?
Absolument, le principe doit être d'application, mais il ne va pas être appliqué à la volée. Les experts sont restés sur place, la ministre est rentrée, la vice-première ministre plutôt est rentrée, les experts sont restés en train de faire le travail de fouilles. Nous devons arriver rapidement à quantifier l'ampleur de ce désastre et faire des analyses appropriées, des calculs appropriés avant d'aller vers l'Angola et poser le problème. Donc c'est un dossier qui doit être bien étudié, bien constitué.
Donc si je comprends bien, le pollueur ou le responsable de cette situation, c'est l'Angola.
C'est pas l'Angola, c'est une usine angolaise. Donc c'est pas la République d'Angola.
Mais quelle est la différence?
La différence, c'est que c'est une entreprise angolaise qui est basée à la frontière avec la RDC, qui a dû déverser, on nous dit que c'est les digues ont cédé, les digues de drainage des eaux usées, des effluents, mais nous devons vérifier sur place si cela est vrai, si c'est par accident ou c'est de manière intentionnelle. Donc il y a beaucoup d'éléments qu'il faut réunir avant d'arriver à la compensation.
Alors si ce n'est pas de manière intentionnelle, c'est une circonstance atténuante.
Si c'est
donc
pas
le principe
manière,
pollueur-payeur ne s'appliquera pas.
Il va s'appliquer. Il va s'appliquer à partir du moment où il y a eu désastre. Mais si la pollution est intentionnelle, là alors les enchères vont augmenter. Il y a d'autres sanctions qui peuvent
être
en
vigueur.
Peut... Ce qu'il faut craindre, c'est l'utilisation de cette eau. Parce qu'on ne sait pas s'il y a encore des métaux lourds qui sont restés en suspension. Et les experts sont sur place en train de faire ce travail aussi laborieux. Donc c'est les résultats des experts
qui ont
été sensibilisés et instruits de ne pas boire l'eau de la rivière.
Parce qu'il n'y a pas la régie des eaux qui est opérationnelle.
Non, détrompez-vous, la régie des eaux est opérationnelle. Mais le problème, c'est que c'est le pouvoir d'achat de la population. La régie des eaux qui est dans la ville de Tchikapa prend son eau en amont de la zone considérée concernée par la pollution. Donc il n'y a pas à craindre. Mais le danger, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est connecté à ces réseaux de distribution d'eau nationale. Voilà un peu la réalité sur terre.
Voilà. Donc la protection des eaux, de nos eaux, lacs, rivières, parle parce que cette situation n'est pas la première. Elle est la énième parmi tant d'autres. Nous pouvons citer les Cléniers qui avaient pollué également la rivière.
Oui.
Et ici à Kinshasa, avec les brassicoles, pour ne pas les citer. Alors, comment le gouvernement s'y prend face à ce genre de désastres?
Voilà. Le gouvernement n'est pas distrait par rapport à ça. Parce que le gouvernement a un bras technique en charge de la gestion des eaux en République démocratique du Congo, qui est la direction des ressources en eau.
Donc vous avez la gestion.
Donc
c'est
vous
les responsables.
Exactement. Et laissez-moi vous apaiser, vous dire ce que nous faisons réellement. Depuis un temps, à chaque fois qu'il y a la pollution, le ministère de l'Environnement, par ses organes techniques, prend en charge les dossiers. La sanction de la pollution arrive, mais quand la pollution est là, on la constate, on sanctionne. Mais sanctionner ne suffit que... Et ce qui continue d'ailleurs maintenant, nous avons régulièrement des missions de terrain, de conscientisation, de sensibilisation, de contrôle, pour que nos compatriotes qui font autre usage, sous sa nous, c'est, comme on l'a dit, c'est un gisement, c'est un monstre gigantesque, où tout le monde va trouver son compte. Il n'y a aucune activité socio-économique aujourd'hui qui peut se réaliser sans faire recours à l'eau. Même la régie des eaux qui prend de l'eau, c'est juste un maillot qui est l'eau potable. Mais là-dedans, il y a la vie aquatique. Il y a des gens qui vont chercher les minéraux de fond des eaux.
Ça semble dire que le poisson déjà de la rivière du Kasaï se retrouve vraiment asphyxié par ce nickel.
Nous avons vu ces images, ils ne sont pas asphyxiés par les nickels. L'eau ainsi que les fers interagissent, subit des transformations, des métabolismes, disons, subit des réactions. Subit certaines réactions dues à l'eau et à l'hydrogène. Et de cette réaction-là, la composition même de l'eau change. Elle devient étouffante parce qu'il n'y a plus d'oxygène. L'oxygène entre plus en réaction avec les métaux lourds qui sont dans l'eau. La conséquence, c'est que le poisson se retrouve, de fait, la conséquence, c'est disparaître. Voilà pourquoi il y a mort de poisson. Et nous avons demandé sensibilisation. Le petit malin existe, il va croire que c'est faux. Il consomme, mais vous avez suivi qu'il y a eu des cas de diarrhée. Donc nous devons continuer à sensibiliser la population.
Donc nous risquons de quitter la maladie animale, la maladie humaine.
C'est déjà arrivé parce qu'il y a eu des cas de diarrhée. Et le ministère de Santé, Dieu merci, impliqué. Franchement, il s'est impliqué pour assister ceux qui ont été dans pareil cas. Donc la sensibilisation...
On va ouvrir les standards pour accueillir les auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat où nous parlons, nous abordons la question de la pollution de nos eaux, en tout cas avec le cas, le tout dernier qui est arrivé au niveau du Kasaï et de Tchikapa, 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69 pour votre intervention directe.
Allô? Allô? Allô?
Super. En tout cas, j'étais très ravi par rapport
à ça. Je suis vraiment ravi par la pertinence de vos interviews.
Habitants de toutes les provinces, Parole aux auditeurs est votre émission. Vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions.
Chacun doit avoir la conscience.
Il n'a pas de travail.
Le intouchable, dans ces pays, n'existait pas.
Suivez cette émission chaque jour de 13h à 14h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, réveillez du lundi au vendredi à 21h.
Merci une fois encore de votre fidélité à Radio Okapi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs qui vous accordent encore le temps de débattre avec nous sur ce sujet. Alors Kalo, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour Kalo.
Oui, bonjour Monsieur JR. Bonjour à votre invité et les auditeurs de la Radio de la Paix.
Vous avez souhaité, dans votre message posté sur notre page Facebook, que le gouvernement puisse déployer les efforts pour mettre fin à cette situation.
Effectivement, mais je commence d'abord à présenter mes regrets vis-à-vis de ce que vient de parler votre invité du jour. Il a suivi aussi, il a vu comme toute autre personne. Moi, je m'inquiète déjà parce que ici, il est question d'abord des autorités qui doivent nous gérer, nous. Si nous avions appris ensemble avec eux, comme tout le monde, alors ça, c'est regrettable d'abord. Parce que quand vous gérez quelque chose, parce qu'aujourd'hui, il vient de parler que la situation est sous contrôle, qui dit contrôle à mon humble avis. C'est-à-dire, on doit maîtriser après. Mais lui maîtrise bien la situation seulement pendant qu'il y a déjà des conséquences. Écoutez d'abord, M. JR, vraiment, nous sommes tellement désolés dans ce pays. Parce que d'abord, il dit...
Oui, parce que en quoi ce que vous dites, si nous nous référons au principe pollueur-payeur, repose également sur le volet prévention.
Prévention, effectivement. Moi, je trouve que d'abord, il faut prévenir que guérir. Aujourd'hui, nos autorités nous sont habituées, c'est-à-dire toujours à boucher d'abord les conséquences déjà en danger. Il y a des déchets humaines. Moi, je me dis, pourquoi ne pas prévenir? Et aujourd'hui, là, ils tentent de dire que l'Angola est différente
de l'usine qui exploite.
De la société minière. Mais
certains. Donc, en termes de responsabilité, directe et indirecte. Oui, si je comprends notre invité, c'est en termes de responsabilité directe et indirecte.
Moi, mon problème ici, j'aimerais que nos autorités puissent vraiment échanger avec les autorités angolaises. Ils doivent vraiment réparer ce préjudice déjà causé par l'air pollution au niveau de l'Angola vers notre pays. Parce que ça va coûter non seulement au niveau des Kassai, ça va aussi vraiment dégénérer jusqu'au niveau de Kinshasa. Vraiment, ce qui va vraiment nous mettre mal à l'aise. Nous sommes habitués à mourir des pains et des autres histoires. Mais
donc ça suffit déjà, il ne faut pas qu'on rajoute. Merci beaucoup. L'effet domino qui partirait de Kassai jusque le fleuve, parce que la rivière se déverse sur le fleuve. Merci beaucoup Kalo Kalonji d'avoir appelé. Alors Christian, vous nous avez rejoint. Bonjour et vous êtes à Kinshasa. Bienvenue. La parole aux auditeurs.
Bonjour, merci JR. Merci d'avoir l'accordé. Votre confrère dans l'actualité.cd, la rivière Kassai a retrouvé sa coloration, je crois, depuis samedi. Mais ce que nous craignons aujourd'hui, en fait, c'est que cette énième pollution ait des conséquences à venir dans 5 ou 10 ans. Parce qu'en fait, ces produits toxiques ont vraiment un effet très très funeste, au même titre que les gaz à effet de serre ou encore la bombe atomique, ou encore, s'il faudrait ajouter, l'arme nucléaire. Et donc l'histoire d'Hiroshima, très funeste de cette manière d'agir de l'homme, a non seulement perduré, mais ils ont également détruit la vie ou encore les vies humaines de plusieurs de milliers de personnes. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, déjà, il y a des problèmes sur le plan, je dirais, environnemental. Hier, celle qui criait, il y a l'incompétence au niveau du pays, et aujourd'hui à la tête de ce ministère, et voilà ce qu'elle nous démontre. Est-ce que nous pouvons utiliser les mêmes termes que lui? Non, je crois que c'est à l'avenir de nous dire. Mais ce qui est encore plus curieux, c'est que, au-delà de cette situation, Jean-Longuembo, comme mon prédécesseur venait de le dire, il y a encore d'autres éléments qui font craindre. Il y a en fait la vie, beaucoup plus
des maladies hydriques.
Sachant que cette population vit essentiellement des activités halieutiques. Alors qu'est-ce que cette population de toutes ces provinces vont consommer pendant tous ces temps? Il dit voilà, il y a une instruction ferme qui a été donnée de ne pas consommer l'eau. Mais qui vous dit que ces peuples-là vont respecter ces mots d'ordre parce qu'ils ne vivent que de ça? Nous avions eu à fréquenter le Congo profond, nous savons les réalités. Vous vous dites bien quand vous allez partir, ils vont continuer à manger du poisson, ils vont continuer à boire cette eau. Donc c'est vraiment très difficile.
Et parce qu'ils
cherchent au moins à faire des fourrages dans ce milieu. C'est en fait les choses qu'ils devraient faire. Voilà la manière dont on pouvait démontrer à la face du monde qu'on est compétent. On pouvait quand même créer des fourrages dans ce milieu pour permettre à ces populations de consommer, parce que vous les avez interdit de consommer les eaux de la rivière. Mais il faut
quelle est l'alternative
créer des ressources pour que ces derniers puissent consommer.
Est-ce que le gouvernement s'est déplacé avec les points d'eau pour permettre à ce que les gens évitent d'aller fréquenter des rivières et des lacs?
Évidemment, c'est ça qu'on devrait faire. Et donc, c'est que nous craignons au-delà de la province de Mayotte.
C'est ça qu'il a fallu être fait.
Et ils ont découvert l'information au même moment qu'ils...
Il fallait déjà, en amont, prendre ces dispositifs. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa. Alors, on va prendre François. Vous êtes sur place à Mouika. François, bienvenue dans Parole aux auditeurs. Vous êtes au Kassai.
Merci beaucoup, Jean-Louis.
Quelle est la situation?
Salut aussi l'invité, je salue tous les auditeurs de la radio Kapi à Ilebo.
Alors, sur place, quelle est la situation qui prévaut?
Oui, Jean Lungue, mais d'ailleurs, beaucoup d'intervenants qui parlent là n'ont pas palpé la situation, mais nous sommes les victimes de cette situation, parce que je vous donne d'abord la cartographie du territoire de Mouika, le territoire de Mouika dans la province du Kassai, où le Tchikapa est notre chef foulier.
Voisin Ilebo, voisin Tchikapa, voilà.
On voit des rivières qui viennent, la rivière de Tchikapa et la rivière du Kassai. Donc, toutes les deux rivières là passent par les territoires de Mouika à côté de Benamakima. Nos populations sont victimes de cette situation, de la transformation d'eau, tout comme aussi à Ilebo. Mais laissez-moi vous dire, Jean Lungemo, que la protection environnementale relève de la compétence exclusive de l'État. Ce qui est arrivé à nos eaux du Kassai démontre la négligence totale du pouvoir aux frontières terrestres, fluviales, ferroviaires, pourquoi pas aériennes. Je parle de cela parce que vous savez que dans chaque pays, il y a des limites maritimes, des limites terrestres, il y a des limites aériennes et ferroviaires. C'est-à-dire que l'État devrait prendre des précautions à travers ses services spécialisés pour veiller à la protection de l'écologie et faire voir aux autorités compétentes, vous voulez dire, tout mouvement ou transformation contraire que d'habitude. J'ai salué également la délégation du gouvernement central Samalou Kondé de Wario, conduite par la VPM, ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba, qui a même reçu mes amis Émile Lemaître, Émile Lominaï et Bernard Nzambi, parce qu'il a accepté les cahiers des charges pour que le gouvernement central puisse faire...
Oui, les cahiers des charges disaient quoi concrètement?
Voilà, les cahiers des charges qui ont été déposés par le comité provincial de la jeunesse, chapeauté par Maître Émile et Bernard, c'était que qu'on puisse faire des adductions d'eau. Des forages dans les communes, dans les cinq communes de Tchikapa, notamment à Kélé, là-bas, à Djibumba, au centre de ville, parce que l'eau a été polluée, M. Djibumba. Nous, je vous dis que nous sommes les victimes vraiment qui parlent de cette histoire-là. Même Mme Eve Bazaïb était descendue là-bas, à la rivière Kassai, je l'ai vu prendre une quantité d'eau pour voir. Donc c'était un peu terrible. Donc nous interpellons le gouvernement congolais de prendre des précautions de tout genre, sur tous les plans, M. Géolungem. Donc, ça laisse à désirer. D'espèces dans l'eau ont perdu la vie. Mais vous savez que nous, ici, le territoire de Mouika, c'est un territoire purement agricole où nous vivons de la pêche, des produits agricoles. L'économie a été bouleversée à Mouika, à Ilebo, à Louébo, aux Congolais, pour qu'ils puissent faire l'insert dans les jours à venir, M. Géolungem.
Okudji, d'avoir appelé de Mouika, là nous sommes au Kassai, ceux qui les connaissent très très bien, c'est l'un des territoires du Kassai, dont Manskapa et Tchikapa gorge une rivière, également une rivière qui passe par cette ville, et vous avez suivi, c'est que cela a causé comme désastre au niveau de Mouika. 081-890-6330 ou encore les 081-890-4969 pour intervenir en direct.
Pour participer à Parole aux auditeurs, appelez au 081 890 49 69 ou au 081 890 63 30. Déposez-nous votre commentaire sur notre page Facebook, soit à pa@radiocapi.net. Et pour suivre Parole aux auditeurs en direct, rejoignez-nous sur www.radiookapi.net.
Voilà, une fois encore, merci de votre fidélité à Radio Capi. Professeur Raphaël Chimanga, vous êtes avec nous de l'UNIKIN. Vous avez fait des recommandations par rapport à cette situation qui prévaut actuellement au Kasaï. Professeur, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Est-ce qu'on peut nous faire une idée très claire sur vos recommandations?
Oui, merci. Les recommandations émanent de l'atelier des scientifiques et des experts qui était tenu le 19 août 2021 sur la situation des catastrophes environnementales que nous sommes en train de vivre actuellement dans le bassin versant du Kasaï, notamment sur les rivières Tchikapa et Kasaï. Alors, les recommandations ont été orientées sur cinq thématiques. Nous avons la thématique environnement physique, la thématique environnement biologique, environnement social économique, puis nous avons l'environnement politique, juridique et diplomatique, et nous avons aussi abordé une autre thématique sur la stratégie de communication, puisque que la population doit prendre pour pouvoir se préserver ou bien donc ne pas prendre beaucoup de risques pour ce que nous sommes en train de voir maintenant comme catastrophe naturelle.
Alors, ce n'est pas la première fois que la RDC puisse vivre une telle catastrophe, une telle situation. Vous, avec vos recherches, aviez-vous eu à conclure sur les vraies raisons qui font que qu'on puisse enregistrer à répétition ces genres de désastres?
Non, disons que une catastrophe d'une telle ampleur, c'est pour la première fois que nous sommes en train de la vivre dans l'histoire de notre pays.
Si nous citons les cas de brassicole à Kinshasa.
J'étais en train de dire que la catastrophe d'une telle ampleur, c'est pour la première fois que nous sommes en train de la vivre au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, ou bien la région du bassin du Congo. Bien entendu, il y a des cas de pollution au niveau du bassin du Kasaï. Il y a toujours des cas de pollution, déviation même des lits de rivière, au niveau de Ituri, au niveau de Chaba. Il y a toujours des cas de pollution, mais la catastrophe, la pollution d'une telle ampleur, c'est la première fois que nous sommes en train de la vivre dans notre pays.
C'est le nickel, selon les derniers résultats, c'est la rivière.
S'il vous plaît, vous pouvez répondre.
On parle du nickel qui serait à la base de cette pollution.
Bon, ce n'est pas, il y a le gouvernement angolais qui venait d'avancer aussi une autre nature de polluants liés au ferro-silicone. Alors, nous voudrions pas que les gens puissent aller dans tous les sens. Ça c'est très important. Nous voudrions qu'en ce moment précis, nous puissions faire des analyses précises pour déterminer il s'agit de quel type de polluants. Ça c'est très important pour les mesures de sécurité de la population et mesures de préparation. Parce qu'il ne faudra pas que les gens puissent aller dans tous les sens. Si le gouvernement angolais est en train de l'avancer, il faudra qu'on nous dise de quel type d'analyse il s'agit et comment est-ce qu'ils sont parvenus à pouvoir l'identifier. Mais nous disons que nous devons collecter les gens sur le parcours du polluant pour établir les types de polluants, sa concentration et l'ampleur de son dégât. Allô?
Oui, allô, professeur.
Ce que nous devons faire, c'est que nous devons avoir une stratégie de gestion de nos ressources en eau qui n'existe pas pour le moment. Et dans ce cas ici, nous devons avoir aussi.
Professeur, si vous le permettez, parce que nous avons dans ces studios le directeur, chef des services des ressources en eau. Parce que quand vous me dites que les services n'existent pas, c'est à lui qui va réagir.
Oui, vous pouvez dire ça. Actuellement, il s'agit là d'un cours d'eau transfrontalière. Un cours très cours d'eau transfrontalière est géré dans le cadre. Nous avons pratiquement à cet instant trois structures qui nous permettent de gérer Kasaï et Tchikapa sur cet aspect des choses. La première structure, c'est la SICOS. La deuxième structure, c'est la politique régionale sur les ressources en eau des États membres de la CAC. La troisième structure, c'est la politique régionale
des États membres sur les ressources en eau des États membres de la SADC. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'existe pas une stratégie au niveau national. Ça, c'est grave si vous faites cette déclaration. Je vous informe que actuellement, la vice-première ministre, ministre en charge de l'environnement, a été sur place. Elle a fait le constat. Il y a une équipe de chercheurs qui est restée sur les lieux en train de faire ces différentes analyses pour voir un peu dans la longueur, dans le temps, qu'est-ce qui serait resté sous forme de traces, sous forme de polluants, sur les fonds des lits des rivières, sur les écosystèmes aquatiques qu'on peut encore identifier. C'est au regard de tous ces éléments réunis que le gouvernement peut maintenant faire un état des lieux, un cahier des charges pour revendiquer acquis des droits. Donc vous ne pouvez pas dire que le gouvernement est à ce niveau-là.
Oui, ces études, dit monsieur Lungu, est-ce que ces études n'ont pas été menées en amont? Parce que l'état des lieux de toute la situation de la RDC est connu d'avance.
L'état des lieux des ressources en eau de la RDC est connu d'avance.
On a participé à COP21.
Oui, mais les états des lieux,
là
nous
on
les
a évoqué
avons.
Les principes pollueurs-payeurs, je crois que nous partageons nos eaux avec d'autres provinces.
Oui, la situation pollueur-payeur. Lorsque c'est en interne, c'est facile à faire. Là, je viens de vous expliquer, il s'agit d'un cours d'eau transfrontalière. C'est pas on se réveille le lendemain, on dit, bon, monsieur JR, c'est toi qui as pollué, paye autant. Ça vient d'un autre État. Et il y a des mécanismes internationaux que nous devons actionner. Les affaires étrangères doivent
mais
être en jeu
pour le faire. Quand est-ce que ce principe a été adopté, n'est-ce pas, en 1972?
Il a été adopté depuis très longtemps. Mais quel est le
matérialisé
texte, dans le texte? Quel est le texte légal, réglementaire qui nous lie avec l'Angola par rapport aux eaux transfrontalières? Il n'y a aucun document qui condamne la RDC ou l'Angola en cas de pareille pollution. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est faire recours aux instruments juridiques sous-régionales.
Bon, écoutez, professeur, nous vous gardons en ligne. Il est temps d'écouter les laborantins. Il y a monsieur Sibati, je crois, qui est le directeur. Hein. Il est nous. Allô?
Oui.
Alors, monsieur le directeur, vous êtes avec nous?
Oui.
Alors, pollution des rivières du Kasaï, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'est la première que cette situation arrive? Les scientifiques sont arrivés à votre laboratoire. Quel est le résultat?
Bon, en fait, d'après les analyses que nous avions amenées, l'eau a été polluée par une oxydation de fer. Le fer a oxydé l'eau. Au lieu que ce soit l'hydrogène, mais l'oxygène, mais c'est plutôt le fer qui a remplacé la molécule. Alors, cette molécule-là qui a formé l'oxyde de fer, qui est très toxique pour les animaux aquatiques. Mm-hmm. Et ce qui a fait que cette eau-là, dès qu'on a versé une grande quantité de fer, le fer, la dose normale dans l'eau, c'est 0,2 mm-hmm. ou 0,3. Mais la quantité que nous avons trouvée, c'était plus que ça. C'était 2 à 3 grammes par minute de tour. Donc, ce qui a fait que cette pollution est 10 fois plus que normale. Alors, comme la pollution est plus 10 fois plus que la normale, et ce qui fait que la coloration, quand il y a le fer, vous prenez même le fer que nous donnons à nos enfants, quand mm-hmm. vous mettez dans l'eau, ça change de couleur. Ça vire de jaune à rouge. C'est mm-hmm. la même chose avec la quantité d'eau des Kasaï qui
est. Oui, docteur Sibitali. Oui, docteur Sibitali. Donc, il ne s'agit pas du nickel.
Allô?
Il ne s'agit pas du nickel, comme l'ont annoncé certains observateurs.
Vous dites?
Docteur Sibitali, est-ce que vous m'écoutez?
Oui, je vous écoute.
Alors, je disais, d'aucuns ont parlé du nickel. Et qui était à la base de la pollution. Donc vous confirmez que ce n'est pas du nickel, mais c'est plutôt du fer.
C'est le nickel et le fer que nous avons...
Du nickel et le fer. Mais cette allégation a été rejetée par l'Angola. Mais l'Angola rejette cette allégation.
Oui. Pour dire à l'autorité que voilà, cette pollution-là provient du fer et du nickel.
Ok.
Ce sont des produits qu'eux utilisent pour traiter le diamant et consorts. Mais ce sont des grandes quantités qu'ils ont déversées dans la rivière. Ce sont des grandes quantités.
Donc les échantillons ont été examinés au laboratoire vétérinaire et non à l'INERB.
Non, c'est au laboratoire vétérinaire, c'est pas à l'INERB.
Est-ce qu'il y a un laboratoire qui existe ici au pays? vétérinaire.
Pardon?
Pourquoi pas à l'INRB, mais plutôt à, au laboratoire vétérinaire.
C'est au laboratoire vétérinaire que les échantillons ont été analysés. C'est pas à l'INRB.
Est-ce que nous avons un laboratoire approprié?
Pour?
Pour ce genre d'examen. Parce qu'on dit que c'est la première fois que cela arrive.
Oui, c'est la première fois que ça arrive. Mais pour la pollution, nous analysons souvent les rivières sur place pour savoir qui pollue la rivière. Ce sont des indications, c'est l'analyse biochimique. Mmh. Chez nous, nous avons un service de biochimie et c'est avec ce service-là que nous avons fait cet examen.
Alors, j'aimerais bien quand même qu'on puisse éclairer la lanterne de ceux qui sont de cette génération. Ces laboratoires existent depuis quand, ces laboratoires?
Depuis 54.
Depuis 54, créés par des Belges.
C'est depuis l'époque belge, colonie belge, que notre laboratoire
existe. C'est le laboratoire qui est logé derrière la clinique vétérinaire, sur Huileri.
Derrière la clinique vétérinaire, sur l'avenue Wangata. À côté de Mamaye.
Merci beaucoup, docteur Sibitalei. Voilà, vous nous avez confirmé certaines choses. Merci beaucoup. Alors, monsieur Lungu.
En fait.
Mais généralement, c'est comme si votre ministère a abandonné ces laboratoires.
Non, il n'est pas. Oui, le ministère. Allô?
Oui, monsieur Sibitalei, docteur, vous voulez ajouter quelque chose?
Plateau technique est l'INRV. Laboratoire vétérinaire, c'est du côté santé animale. Et l'INRV, c'est de côté santé humaine.
Donc, vous occupez de santé animale, des abeilles ou les animaux.
Labo de référence OIEPI.
Merci beaucoup.
Alors, je vous informe que les laboratoires en question ici ne dépendent pas du ministère de l'Environnement. Mm-hmm. Il dépend du ministère de Pêche et Élevage. Mm-hmm. Et l'échantillon qui est venu du Kassai à ce moment-là a été amené par le ministre ayant en charge la pêche et l'élevage. Et ces laboratoires évoluent toujours dans les analyses, comme il a dit, des animaux et des espèces animales. Mmh. C'est pas un laboratoire qui fait des analyses humaines. Parce que le ministère de Pêche et Élevage a aussi en son sein la quarantaine animale. Mmh. Donc voilà pourquoi l'échantillon a été analysé.
C'est vraiment une question.
Ce que je vais vous dire, la matière de gestion de l'environnement, de gestion des ressources en eau, c'est une matière, comme vous l'avez dit, transversale. Donc ça signifie quoi? Ça signifie qu'il y a plusieurs intervenants dans le secteur. Et nous ne devons pas minimiser ça parce que c'est le laboratoire vétérinaire qui a fait l'analyse. Nous estimons que ça devrait être fait à l'INRB ou à tel... En vertu de quoi nous devons faire ces choix? Parce que ce laboratoire est équipé et il est utilisé par des Congolais compétents. Vous ne pouvez pas revenir sur ça. Ce qui est important,
il est dans quel état?
Je vous dis qu'ils ont tous les équipements qui peuvent être à l'INRB. Allez vérifier sur place, vous verrez. C'est pas avec des machines
soudées qu'ils ont travaillé. Mais je suis passé par là, même avant cette émission, je suis passé par là. Mais ça ressemble à un mouroir.
Non, vous avez vu de l'extérieur. Allez voir les compétences qui sont de là. Moi, je suis du ministère.
Donc même les murs, on ne sait pas repeindre.
Bon, les murs, on peut pas les peindre, mais est-ce que les têtes des gens ont besoin d'être repeintes? Voilà. Pour moi, le résultat a été probant. On vous dit que c'est une activité minière qui aurait un déversement abusif excessif du nickel.
Mais l'Angola a tout rejeté.
L'Angola ne peut dire que ça. Mmh. L'Angola ne peut dire que ça parce qu'il connaît les conséquences.
Est-ce qu'on risque pas de se retrouver sur un terrain dans un langage de sourds?
Non, justement, si on ne gère pas bien, on va se retrouver dans un langage de sourds. Mais avec des échantillons qui montrent, d'abord, la source de la pollution a été identifiée. La province a fait envoyer des émissaires du gouvernement jusqu'en Angola. La source a été identifiée. Maintenant, au niveau national, les affaires étrangères s'activent pour que ce qui ne peut pas être dit ici soit réalisé dans le cadre de la coopération.
Voilà. Alors, professeur Raphaël Chimanga, vous êtes avec nous?
Je vous en prie, monsieur le journaliste.
Voilà. Alors, professeur, qu'est-ce qu'on doit faire à la longue? C'est vrai, vous avez parlé de la question sur l'environnement physique, l'environnement biologique, le social, tout ça, ce sont des impacts. Hein. Et aujourd'hui, ce qu'on craint, c'est qu'il y ait un effet domino, que ça quitte le Kassai pour arriver même au niveau de Kinshasa avec le fleuve, parce que la rivière se déverse dans le fleuve.
Oui, merci beaucoup. Je salue d'abord la présence du directeur des ressources en eau. Prendre un peu des allures quand je parlais du manque de stratégie. Uh-huh. Et je ne parle pas du manque des institutions. Les cadres institutionnels existent, uh-huh. mais nous savons au regard des problèmes qui se posent, c'est que nous avons affaire à la stratégie de gestion durable des ressources en eau qui n'existe pas. Et je crois que cette situation doit nous ouvrir les yeux pour que nous puissions voir comment est-ce que nous pouvons élaborer cette stratégie. Ça n'existe pas. La stratégie de gestion durable des ressources en eau n'existe pas. C'est que nous devons nous battre. Nous devons mobiliser les ressources techniques, les ressources financières, les ressources humaines pour que nous puissions arriver à établir cette stratégie au sein de laquelle tous ces problèmes seront pris en compte. Aujourd'hui, nous avons nous avons un problème de pollution avec l'Angola. Demain, c'est le cas avec les eaux partagées entre la RCA et la République démocratique du Congo et d'autres pays. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? D'abord, bien entendu, il y a le cadre régional, mais comment est-ce que nous pouvons vraiment faire en sorte que ce cadre général de gestion des ressources en eau soit opérationnel. Donc, c'est ça ce que j'étais en train de dire, c'est que nous avons affaire à un cas de pollution. Il faudra que les résultats qui sortent des analyses soient acceptés par tous. C'est que il faut pour cela une méthode bien précise, il faut des personnes habilitées à pouvoir faire cela, des personnes reconnues, que ces personnes soient impliquées dans le processus pour que ces résultats-là, lorsqu'ils vont sortir, ça soit accepté au niveau international. Et nous avons même besoin de pouvoir faire intervenir les laboratoires sur le plan international, puisqu'il s'agit bien entendu, ce n'est pas le cas de la RDC, c'est le cas qui implique un autre pays. Pour que ce pays-là puisse accepter, il faut qu'il y ait aussi des laboratoires, même au niveau international, qui doivent être mis à contribution
pour départager les deux.
Il y a un problème de méthodologie là que nous devons clarifier. Donc, méthodologie en termes de collecte même des échantillons, quand on nous parle qu'on a identifié le fer, n'est-ce pas? Quelle est la méthode qui a été utilisée? Les échantillons ont été collectés à quel point? Quelle est la variation de ces échantillons, de polluants et leur concentration sur les parcours? Ce sont les questions.
Oui, mais le docteur qui intervenait tout à l'heure.
Notre attention actuellement.
Oui, professeur.
Nous n'avons pas intérêt à pouvoir chevaucher avec ce que les gens sont en train de faire. Mais je pense que le directeur des ressources en eau venait de dire ici, c'est que la matière de l'eau, c'est une matière transversale. N'est-ce pas? On nous dit qu'il y a des chercheurs qui ont été sur terrain. C'est ce qu'on vient de... Mais sont ces chercheurs qui ont été sur terrain, quelle est la méthode?
Les experts du ministère.
Disponibles, n'est-ce pas?
Professeur.
C'est la question qui intéresse tout le monde. Pourquoi cacher ces informations?
Oui, mais ce sont des experts du ministère qui sont allés sur... C'est une question transversale. Il y a le ministère de pêche et élevage, il y a le ministère de la santé, il y a également le ministère de l'environnement.
Mais il y a des scientifiques qui travaillent dans cette balle, bien entendu.
Pourquoi donc vous auriez souhaité qu'on vous associe.
Il y a des scientifiques qui se sont réunis, ils ont fait des recommandations. Pourquoi?
Voilà.
Il y a des gens qui travaillent sur cette question depuis des années, depuis des décennies. Il y a des gens qui travaillent sur les ressources en eau de la République démocratique du Congo et du bassin du Congo. Pourquoi on ne peut pas prendre ces gens-là en considération?
Voilà, merci beaucoup professeur, et je retiens que il faut 5 thématiques pour arriver à la solution. La question sur l'environnement physique, l'environnement biologique, l'environnement social et économique, l'environnement politico-juridico-diplomatique, vous l'avez dit ainsi, et enfin la stratégie des communications. C'est ce que nous faisons aujourd'hui pour permettre
à ces recommandations, je vous dis, monsieur le journaliste, ont été transmises au gouvernement. N'est-ce pas?
Oui.
C'est au gouvernement de pouvoir voir comment est-ce que les interventions
vous l'avez
appliquées.
Vous l'avez déposé auprès du Premier ministre ou bien auprès du ministre de l'Environnement?
Auprès du ministre de l'Environnement, les recommandations ont été déposées. Auprès du Premier ministre,
bien.
Les recommandations ont été déposées.
Madame la VPM retourne sur Kinshasa aujourd'hui. Nous allons entrer en contact avec elle pour voir comment elle compte appliquer ses recommandations. Merci beaucoup, professeur, d'avoir accepté d'éclairer la lanterne des uns et des autres dans cette émission. Et je crois que le temps nous fait défaut. Nous vous libérons. Merci beaucoup. À très bientôt, professeur.
Merci beaucoup.
Voilà, on poursuit cette émission avec vous, Marie-Paul. Marie-Paul, vous nous avez rejoint. Vous êtes à Kisangani. Bonjour, Marie-Paul.
Bonjour, c'est le journaliste et bonjour à l'invité ainsi qu'à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Quelle est votre contribution, Marie-Paul?
Oui, Merci, monsieur le journaliste. Et je pense que la pollution en eau au Kasaï et du Kwilu, après celle de Katanga et de Kinshasa, est non seulement les résultats de l'absence de la gouvernance des ressources naturelles et aussi des normes environnementales, et parce qu'il n'y a pas cette observance-là. On n'a pas la gestion, on n'a pas la gestion des déchets des résidus dans notre pays. Alors, l'exploitation se fait de manière un peu désordonnée. Donc, on fait la production des produits de base de manière un peu désordonnée. Et par conséquent, nous avons ce genre de pollution qui vient d'être peut-être révélé un peu en retard. Néanmoins, si on mène des études un peu étendues, on va voir que dans beaucoup d'endroits en RDC, là où il y a l'exploitation, la pollution a atteint quand même un degré très élevé. Alors, vous n'êtes pas aussi sans ignorer ce que, monsieur le journaliste, ce que... Les études sur l'évolution de la pollution en RDC sont des études rares. Et non dirigeants, non gouvernants ne se font que des comptables des conséquences néfastes et pourquoi aussi fastes de l'exploitation que nous avons toujours décrit, de l'exploitation désordonnée. On exploite là où on ne peut même pas. On n'observe même pas les règles environnementales. Ce qui était dangereux.
Mais pourtant, ce pays regorge pas mal de médiateurs, si je ne sais pas comment on les appelle, les négociateurs sur le climat. Ils sont nombreux, ils ont participé à COP21 et on devait arracher les 1 million qui était destiné, je crois, beaucoup d'argent hein, pour l'Afrique. Alors, je ne sais pas aujourd'hui quels sont les lobbies qui avancent dans cette logique-là pour amener cet argent au niveau de la RDC, qui est le poumon d'ailleurs.
Oui, en fait, nous-mêmes, les gens de la RDC, les gouvernants de la RDC, nous devons d'abord être respectés nous-mêmes. C'est-à-dire, nous-mêmes, nous devons faire appliquer les règles environnementales dans notre pays. Si vous voyez comment on est en train d'exploiter les matières premières dans notre pays, ça laisse à désirer. Et on exploite dans des conditions qui sont en violation totale avec les normes environnementales. Mmh. Et tout ça, comment voulez-vous que, même si nous sommes signataires, nous voulons bien que on applique les règles environnementales dans notre pays, mais nous-mêmes, nous donnons
des permis
d'exploitation en désordre. Cela ne permet pas. Et aujourd'hui, nous avons quand même ces richesses-là. Nous avons cette connotation insoupçonnée des poumons du monde. Nous avons beaucoup d'eau qui sont d'eau douce qui peuvent d'ailleurs, cette eau-là peut servir l'humanité. Ça peut également rapporter de l'argent en RDC. J'ai toujours regretté, nous qui avons des eaux douces, mais nous parvenons à acheter des eaux qui sont transformées, qui sont traitées dans d'autres pays. Ça, c'est vraiment c'est comme quelqu'un qui dort sur une richesse. Il ne sait pas absolument.
Merci beaucoup. Merci Marie-Paul. Merci Marie-Paul. Le temps nous fait défaut. Alors on va prendre Edmond. Edmond, vous êtes en Bandaka. Vous êtes nombreux. On ne saura pas prendre tout le monde, hein, parce que la question, il fallait qu'on aide les gens à avoir une idée très claire sur cette question. Alors Edmond, vous êtes en Bandaka. Bonjour Edmond.
Bonjour la Radio Capri. Bonjour à tous les auditeurs.
Bon, avant de retrouver notre invité, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
À ce niveau du débat, moi je pense que ma contribution se trouve dans... C'est résumé dans comme suit. Je pense que le problème de la pollution des eaux, et notamment pour le cas de Kasaï, Kinshasa et consorts, je pense que c'est la responsabilité du gouvernement. Et vous allez voir que, par exemple, les sociétés qui exploitent, par exemple, les sociétés brassicoles qui exploitent, elles sont des sociétés quand même qui sont autorisées par le gouvernement congolais de pouvoir fonctionner parce que ils payent quand même certains impôts, certaines taxes qui permettent également au gouvernement de pouvoir fonctionner. Mais je pense que c'est au gouvernement, c'est la responsabilité du gouvernement, lorsqu'il y a la pollution, de pouvoir faire application des mesures qui sont prévues dans la loi de 2011 sur la protection de l'environnement. Parce que ça va de la vie de la population. Bien sûr que nous devons bénéficier, parce que nous avions suivi que il y a certains intervenants qui disent que il y a une mauvaise exploitation. Moi, je pense que c'est pas une mauvaise exploitation parce que ce sont des sociétés qui sont autorisées, qui payent les taxes, les redevances, et que nous, qui sommes de la population, nous bénéficions de ces ressources à travers ces impôts, ces taxes. Et je pense que comme le problème est arrivé, il y a une pollution, que le gouvernement puisse arrêter des mesures idoines afin de permettre à ceux qui exploitent ces ressources naturelles ne puissent pas polluer, que nous qui sommes, la population, nous ne puissions pas être exposés à des maladies, à des problèmes environnementaux. Je pense que c'est dans ce sens-là. Voilà.
Merci beaucoup Edmond. Alors on revient à vous, monsieur Lungu Maluchi. Lui, Vous êtes directeur, chef des services de ressources en eau au ministère de l'Environnement et Développement Durable. Vous avez suivi les uns les autres, le professeur, Marie-Paul, Edmond et ceux qui nous ont qui avaient précédé même dans la première série. Comment orientez-vous ces débats?
En fait, à ce niveau ici, je vous rassure que le gouvernement a pris la responsabilité parce que madame la VPM en charge de l'environnement et développement durable s'est déplacée personnellement avec une équipe des experts. Ils sont en train de travailler, les résultats seront transmis à qui des droits pour des dispositions. La pollution qui est arrivée, c'est une catastrophe, c'est un accident. Ce n'était pas prévu, c'était de manière inattendue. On se réveille le matin, la pluie tombe, il y a inondation. Mais nous, laissez le gouvernement résoudre ce qu'il peut résoudre. Ce que le gouvernement a fait, c'était de dire aux gens de ne pas consommer de l'eau. Et la régie des eaux existe à Tchikapa. Et comme la régie des eaux existe, il faut absolument, je pense, ça sera dans les recommandations, qu'on donne suffisamment de moyens à la régie des eaux pour qu'ils puissent desservir facilement beaucoup plus de personnes. Ou alors trouver des moyens pour réaliser des forages. Mais la pollution n'a pas seulement touché Tchikapa. Tchikapa, c'est un point où il y a la route, il y a l'accès, les gens ont pu constater que c'est une grande ville. Mais tous les villages qui sont au long de ces deux rivières, Kasaï en aval, Tchikapa un peu en amont, ont souffert de cette pollution. Ceux qui sont dans les milieux les plus reculés, les auditeurs qui interviennent, ils vont me proposer quoi? Évidemment, la pollution qui passe, ça peut faire 3-4 jours, elle est partie. Mais maintenant, on peut utiliser de l'eau. Mais avant de l'utiliser, les chercheurs qui sont sur place vont informer la population des risques ou non de se faire intoxiquer en prenant cette eau-là. Entre-temps, on permet au gouvernement de réunir les moyens, d'établir l'ampleur de ce désastre, de chiffrer un peu ce désastre en termes de pertes en biodiversité, en termes de reconstitution même de l'écosystème aquatique, ça a un prix.
Tout à fait.
En termes de mammifères supérieurs qui ont succombé à cause de cette pollution. Donc il y a des calculs qu'il faut faire avant d'arriver à quoi que ce soit. On ne peut pas aller de manière précipitée. Je reviens pour vous dire qu'une fois encore de plus, Tchikapa, c'est un cours d'eau transfrontalière. Nous sommes dans le bassin du Congo et Brazzaville, c'est pas dit que Brazzaville ne sera pas affecté par cette pollution. Tous ceux qui ont intervenu, personne ne vous a dit comment ramasser cette pollution-là
pour que ça s'arrête. Un désastre sous-régional.
C'est comme ça, la SICOS, qui est une institution qui gère l'eau du bassin du Congo, doit intervenir. Mais pour que la SICOS intervienne, il faut qu'il y ait un État qui les saisisse. Et un État membre. Et l'État membre qui doit venir saisir, c'est la RDC. Et la RDC ne peut pas saisir la SICOS s'il n'a pas encore réuni toutes les informations nécessaires. Donc un peu de patience. Personne nous a dit donc, comment
malgré le résultat du laboratoire, vous n'avez toujours pas tous les éléments.
Non, le résultat du laboratoire est là. C'est un indice. Mm-hmm. Mais il faut quantifier les désastres sur la biodiversité. Vous n'allez pas envoyer un dossier.
Mais ils ont parlé de plus de 10% de la teneur de nickel et de fer.
Ça, c'est un élément. Mais quelles sont les espèces qui ont disparu? Combien de familles ont perdu d'emplois, ont perdu la nourriture, ont perdu de l'eau à boire à cause de cette pollution? Ça, c'est une étude, c'est un dossier qu'il faut constituer. Je ne parle pas comme chercheur, je parle comme gestionnaire des ressources en eau. Donc, il y a des préalables qu'il faut réduire.
Pour vous situer sur l'intervention à apporter.
Il faut situer ce que vous devez porter. Les chercheurs peuvent nous aider à amener les différentes informations, mais au final, c'est l'administration qui réunit les dossiers et transmet à qui de droit pour pallier à cette situation.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que les services, par exemple, de ressources en eau n'arrivent pas à faire bien son travail, faute de moyens, parce que la part allouée à l'environnement aujourd'hui, parlons-en, depuis le sommet de Maputo, on se rend compte que finalement, nous sommes le dernier pays à ne pas appliquer les recommandations de Maputo.
Non, c'est grave, je ne vais pas revenir par rapport à ça, mais je vous dis que le problème des moyens, c'est dans tous les secteurs.
Ça se pose avec
c'est dans tous les secteurs. Et moi, dans mon secteur, je ne peux pas me dire je ne fais rien parce qu'il n'y a pas de moyens. Je vous informe d'abord qu'au ministère de l'Environnement, la direction des ressources en eau, c'est parmi les directions qui viennent de naître dernièrement. Parce que les Congolais ont toujours eu en tête cette idée, nous avons beaucoup d'eau, nous avons ceci. Mais en réalité, moi qui gère, je vous dis qu'on n'a pas d'eau.
Les gens vont dire c'est
mais
faux.
Ça me scandalise même.
Oui, mais même vous.
Moi, ça me scandalise.
Voilà, exactement. C'est ce qui est resté dans la tête des Congolais. Nous n'avons pas d'eau, suffisamment d'eau.
Le monde entier déclare que nous avons le fleuve.
Voilà.
Le deuxième du monde, je crois. Et nous avons tout ça.
Exactement.
En termes de débit en Afrique.
Mais quand je dis vous n'avez pas d'eau, ce n'est pas les volumes que vous voyez qui coulent. Vous n'avez pas d'eau par rapport au quota qu'il faut donner par habitant. Dans les bassins du Congo, sur les 10 États, nous ne sommes pas premiers. Les études de la SICOS l'ont montré.
Alors, il faut aussi changer
les
contenus, c'est qu'on donne aux enfants à l'école.
Oui, mais c'est vous qui donnez, parce que vous ne voulez pas changer ça. Il faut actualiser les documents. Regardez la réalité. Dans les bassins du Congo, nous avons 10 États. OK? Aucun pays n'a les plans d'eau que nous avons. Personne ne peut discuter sur ça. En Afrique, personne n'a les plans d'eau que dispose la RDC. OK? Mais la RDC, par rapport à ses voisins, a combien d'habitants? Aucun voisin n'a même le tiers de la densité que nous avons. Prenez le volume d'eau divisé par le nombre d'habitants.
Si on peut encore aller plus loin, combien de la population a accès à l'eau potable?
Non, accès à l'eau potable, c'est pas l'environnement. L'environnement gère la ressource naturelle, mais l'accès pour la navigation, c'est notre ministère. Pour l'eau potable, c'est notre ministère. Pour la pêche, c'est notre ministère. Mais nous garantissons la disponibilité en quantité et en qualité. L'eau est là. Mais nous devons faire des efforts.
Mais dans quel état?
Aujourd'hui, regardez. Quel état? L'état va toujours être bon ou mauvais, mais notre responsabilité, c'est de faire en sorte que l'état de l'eau là reste admissible. Aujourd'hui, la pollution arrive sur la rivière. Mais les gens s'attaquent à la pollution parce que c'est une urgence, c'est une catastrophe. Nous devons vite résoudre ça. Mais combien de gens se posent la question sur les tirants d'eau de la rivière Kasaï? Sur les débits de la rivière Kasaï. Est-ce qu'aujourd'hui, la rivière Kasaï a le volume d'eau qu'il avait avant? Trop peu de gens font attention à ça. Et nous devons vous informer que, attention, attention, nous devons faire attention. Suivez ce que le ministère d'Environnement vous demande. Heureusement pour nous, il y a les projets du gouvernement, 1 milliard d'âmes. Nous devons vite faire pour reconstituer les cycles de l'eau. Sinon, nous sommes un état en stress hydrique. Je vous informe que sur notre territoire, au-delà de la province concernée par la pollution, comme il y a des ressources en eau, nous avons un territoire qui n'a même pas une rivière. Mais vous dites, vous êtes un scandale hydrique. Allez dans les territoires de Niragongo, vous allez pleurer. Les gens vivent de la cueillette des eaux de pluie et de la brune. Quand Kinshasa achète des carreaux pour paver les maisons, paver les couloirs des bureaux, Niragongo achète les carreaux pour paver les flancs des montagnes et collecter les gouttelettes d'eau. Nous sommes en République démocratique du Congo. Donc, c'est vous dire que la stratégie de gestion des ressources en eau, elle est là, elle existe. Nous attendons les moyens. Nous faisons l'administration, on ne fait pas de la presse. Donc, ce qui se passe dans l'administration, c'est un courrier qui est transmis à un service attitré pour des solutions. On ne peut pas venir ici à la radio dire.
Vous avez des recommandations des scientifiques.
Nous avons reçu
sur votre table.
Exactement. Les scientifiques qui travaillent chacun dans son domaine. Mais ces recommandations, c'est ce qui nous donne la force.
Mais comment c'est pas quoi arriver sur votre table?
Non, c'est arrivé. Non, je n'ai pas refusé de reconnaître ça. Je n'ai pas refusé. Son Excellence, la mission que Son Excellence, la vice-première ministre, c'est dans ce cadre-là. Si on regarde de toutes les recommandations qui sont venues, pas seulement d'un seul centre, mais de plusieurs observations scientifiques, plusieurs observateurs scientifiques, qui ont formulé des recommandations, et l'administration elle-même a statué. Nous avons eu une réunion avec le gouvernement provincial du Kasaï, avec le ministère de pêche, avec les affaires étrangères, c'est ce qui s'est fait. La pollution est arrivée de manière inattendue. Mais la solution ne peut pas être aussi un coup de bâton magique, parce que ça demande des moyens. Il faut des forages. Nous avons, depuis Tchikapa, jusqu'à l'embouchure de l'affluent Kasaï sur le fleuve Congo, ou même juste autour de ces plans d'eau qui seront affectés. S'il faut faire des forages, on les fait par où? On ne peut pas prendre une décision. Comme ça, on dit, voilà, on va lancer des forages. C'est un état des lieux qui vous dit, dans telle zone, on peut le faire parce qu'il y a tel aspect, il y a tel aspect. L'État n'agit pas parce que tel a dit. L'État agit pour résoudre un problème de manière durable.
Si je comprends bien, le peuple doit prendre leur mal en patience. La mission a été effectuée par la VPM. Elle est de retour, si pas aujourd'hui, demain. Les études, disons, il y a une option qui sera levée au niveau de l'administration de l'environnement pour voir les degrés d'intervention.
Oui. Et actuellement, on demande à la population de suivre les consignes qui ont été données et le gouvernement va résoudre ces problèmes.
Monsieur Lungu Maluchi, Louis, Nous rappelons que vous êtes directeur, chef de service des ressources en eau au ministère de l'Environnement et Développement Durable. Nous vous remercions d'avoir honoré, de nous avoir honoré de votre présence dans ce studio.
Merci.
Pour la première fois.
Anouf
m'avait dit que vous n'êtes pas habitué au micro. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur Lobo. C'était un grand plaisir de partager ce moment.
J'espère que nos compatriotes ont aimé ces interventions.
Je crois qu'ils sont édifiés.
Soyons prudents, soyons unis.
Merci beaucoup, monsieur Lungu. Merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission, Jocelyne Mukendi et Polite Kapanga. Voilà, l'émission a été coordonnée, présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. On se retrouve demain dans un autre numéro de Paroles aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.